Terre à Terre, le magazine de l'environnement. Ce matin, l'environnement vu du Québec, une rencontre avec le journaliste Louis-Gilles Franqueur. Louis-Gilles Franqueur, ça vous fait tressaillir, mais moi j'aimerais bien que vous vous présentiez quand même un petit peu. Je peux vous présenter un tout petit peu moi-même. Vous êtes le journaliste, monsieur journaliste environnement, dans le journal Le Devoir, qui est un remarquable journal au Québec. Un journal qui a un ton très élégant, dirais-je, à la fois extrêmement sérieux, mais avec le mordant nécessaire et la distance nécessaire pour que ça ne soit pas poussiéreux. En même temps, qui évite tous les pièges de l'ironie facile, du jeu de mots, le côté un peu trop facile qu'on peut trouver dans certains organes de presse français, vous échappe totalement. Donc vraiment une façon à la fois posée et critique de considérer le pays. Donc vous, c'est l'environnement et ça date pas d'hier, Louis-Gilles Franqueur, 30 ans déjà ?
Oui, effectivement, j'ai commencé à couvrir l'environnement en 81 parce que, comme chasseur, je voyais qu'aux États-Unis, les chasseurs et les pêcheurs commençaient à se battre. C'était les premiers, avant les groupes écologistes, pour préserver des forêts, pour préserver des cours d'eau, pour empêcher qu'on construise des dépotoirs dans des habitats fauniques importants. Puis je me disais, mais comment ça se fait qu'ici au Québec, personne ne s'occupe de ça? Nous, on fait toutes ces gaffes à répétition sans s'interroger sur les conséquences. Et puis, comme ma formation, c'est d'être un politologue et spécialisé en administration publique. J'étais haut fonctionnaire au gouvernement fédéral. Je suis retourné aux études un peu sur le tard, faire des études en sciences politiques. Alors, forcément, je voyais, moi, dans ces enjeux, derrière le chasseur ou le pêcheur, il y avait le politologue qui disait « Oh là là, mais quel jeu de pouvoir, quel choix de société, quel choix politique on est en train de faire ?» Enfin, à l'insu des gens. Alors moi, ça m'horripilait. Et j'ai commencé à dire au devoir « Écoutez, il faut qu'on couvre l'environnement. » Et puis, on avait un comité d'information qui planifie l'information. Et dans ce comité, j'ai poussé en disant « Écoutez, il ne s'agit pas de dire qu'on a trouvé 2 parties par million de mercure à tel endroit. Il faut se demander si on accepte que le cours d'eau soit transformé en poubelle et qu'on prenne des décisions là-dessus. Puis il faudrait peut-être demander aux gens autour qui vont boire cette eau pendant X décennies s'ils sont d'accord. Et qu'est-ce qu'ils pensent du projet de la compagnie de grossir, d'en ajouter, d'inviter d'autres copains à s'installer à côté. » Alors, au journal, au début, ça a démarré vaille que vaille. Ils ont passé ça au chroniqueur scientifique, et puis le chroniqueur scientifique, le temps de le dire, était débordé. Il faisait plus d'environnement que de science, puis il disait « je veux revenir à la science ». Ils ont nommé quelqu'un pour qui l'environnement, c'était l'agriculture, le prix du poulet sur le marché. C'est-tu pas extraordinaire comme démarche environnementale? Là, on s'est ramassé avec une manifestation un jour d'écologistes devant le devoir qui ont dit « Écoutez, l'agriculture, c'est pas parce que c'est vert que c'est l'environnement. » Alors, là, ils sont venus me retrouver puis ils ont dit « Louis-Gilles, on a été trouver 2-3 bons à l'université puis ils nous ont dit « L'environnement, là, faut regarder ce qui arrive aux pépites. » Puis là, on s'est retourné, puis dans toute notre gang d'intello, il n'y a rien qu'un spécialiste des bébites qui leur court après à longueur de fin de semaine. C'est notre chasseur et pêcheur. Alors, ils ont dit, t'es désigné volontaire, tu nous en as assez parlé, tu le fais. Puis, fais-le de la manière que tu nous as proposé, au fond. Alors, finalement, j'ai décidé de changer de secteur, puis d'attaquer l'environnement. C'est arrivé un peu comme ça, vous savez, au devoir, c'est une bande d'intello. Mais des gens engagés, des gens rigoureux. Et ce domaine-là, ça les estomaquait pas, c'était intriguant. Je me rappelle que le chef de pépite, qui avait participé à la décision de me faire nommer responsable de l'environnement, m'a dit, écoute, après 2-3 papiers, il faut que tu y penses comme il faut, parce que je voudrais quand même qu'on puisse faire d'autres articles d'ici 15 jours, 3 semaines. Il dit, de quoi tu vas parler après avoir fait un article, ces petits oiseaux, puis un article, ces écureuils? Là, j'ai dit, tu vas avoir des surprises, mon vieux. Et c'est parti. Dès les premières enquêtes, ça a été un bordel total. Je me rappelle, j'appelle au ministère de l'Environnement, je me présente, puis je dis, y a-tu des rapports, quelque chose qui sort, qu'on peut prendre en nouvelle? Il dit, ça tombe bien, il y a un rapport du Bureau d'audience publique sur l'environnement qui vient de... Pas un rapport, c'est-à-dire un projet d'étude d'impact qui est rendu public aujourd'hui. Et puis, tu peux regarder ça. On parlait d'un quai à pêche sur la promenade Bellerive. C'est extraordinaire. Moi, je suis un pêcheur. Je vais lire ça avec beaucoup d'intérêt. Mais quand j'ai réalisé que les pêcheurs, ils se retrouveraient 12 mètres au-dessus de l'eau, là, je me dis, comment tu fais pour palanter littéralement au bout de ta ligne un poisson de 3 kilos? S'il faut le grimper 12 mètres, il va casser la ligne. C'est qui l'imbécile qui a pensé à faire un quai pareil? Sauf que quand je suis arrivé dans la deuxième partie du rapport, j'ai réalisé que la ville de Montréal, son fameux quai à pêche, incidemment, c'était un quai là où on voulait rejeter en hiver 6 millions de mètres cubes de neige usée, bourrée d'hydrocarbures, de sel de déglaçage, etc. C'était une horreur totale.
Et une bonne supercherie.
Et une bonne supercherie. On vendait ça comme un quai à pêche à la population locale. Alors, les gens avaient 45 jours pour demander une audience publique, puis on était au jour 43. Personne n'avait entendu parler de cette étude d'impact qui dormait sur une tablette. Personne couvrait l'environnement. Alors moi, j'ai appelé l'usine d'épuration, puis je suis un peu inventeur sur les bords, puis je me suis dit, au fond, au lieu de jeter ça à l'eau, si on mettait ça dans les égouts un peu partout dans la ville, on sauverait beaucoup de routes de camionnage, et puis ça s'en irait tout seul à l'usine d'épuration, puis on pourrait traiter toute cette neige. J'appelle le directeur de l'usine, puis je dis, seriez-vous capable de traiter ça? Aucun problème. Ah bon? Expliquez-moi. Non, non, nous avons la capacité, puis on est capable de traiter ça. On va récolter sûrement 65-70% de tous les contaminants qu'il y a là-dedans et tout. Alors, je sors le lendemain que, bang, le quai à pêche, je peux vous dire que j'ai pas fait un gros paragraphe avec ça. Hein. J'ai parlé du quai à neige. Et il y a eu 12 demandes pour une audience publique dans les 24 heures qui ont suivi. Et je me rappelle, quand le rapport a sorti, le gouvernement avait passé au cabinet. Ils ont refusé à la Ville de Montréal de construire le quai.
C'était en quelle année, ça?
En 81-82. Alors là, je me rappelle que le patron m'avait dit, tu t'en vas à l'hôtel de ville. Et puis, il y a une séance du conseil, il faut qu'on attrape la réaction du maire qui vient d'apprendre que Québec a refusé son fameux quai. Et là, à ma surprise la plus totale, et là, lui, il a appris par quelqu'un, je ne sais pas qui, que j'étais là. C'est ce jeune homme qui a fait perdre à la ville de Montréal le premier projet en 100 ans d'histoire. J'étais rouge comme une tomate, je ne savais plus où me mettre. Il m'a littéralement engueulé devant tout le monde. Il m'a mis sur le dos. Mais ça avait provoqué un étonnant débat public. Les gens du quartier se sont mobilisés. C'était la première fois que les gens à Montréal participaient de façon très ouverte à une grande audience publique. Puis je vois encore une petite madame qui était sur le coin de la rue où les camions allaient tourner. Elle est venue trouver le commissaire en avant, puis elle dit, 14 000 camions dans l'hiver qui vont tourner devant ma maison, ça va-tu affecter la valeur de ma maison? Et le commissaire, pendant 4 heures, a questionné la ville, a exigé la production de rapports, et la réponse, c'est oui, madame, 40 % de moins. Alors, il y a d'autres résidents qui se sont dit, merci, on commence à comprendre ce qui se passe. Alors, immédiatement, le journal a compris que si on couvrait en termes de choix sociopolitiques, dans un journal, dont la première vocation, c'était un journal d'analyse sociopolitique. Ils ont dit, aïe aïe, c'est un bon créneau que mon Louis-Gilles, il ne l'avait pas vu. Et ça a parti, c'était comme une traînée de poudre. 10 ans plus tard, en 90, on était rendu 7 chroniqueurs environnement au Québec. Les autres ont été obligés de suivre. Le devoir a eu là-dessus un effet d'entraînement assez extraordinaire, vous comprenez?
Entraînement sur les autres journaux? À l'intérieur du journal, qu'est-ce que ça a fait? On a souvent vu en France des pages se contredire totalement à l'intérieur d'un même journal. La page économie se réjouir, par exemple, de l'augmentation du nombre de voitures vendues, pendant que à la page écologie, on vous expliquait ce que faisaient les voitures sur l'effet de serre.
Écoutez, quand je voyais mes collègues de l'économie expliquer que la construction des maisons résidentielles avait augmenté de 8% cette année, donc c'est une très bonne année pour l'économie. Ben moi, j'allais hurler dans leur coin en disant, mais bande d'imbéciles, vous savez pas qu'à l'université, dans un cours d'économie 101, premier niveau, vous auriez été recalé avec un jugement pareil. Je dis, en économie, vous passez pas un examen avec ça, là. Vous êtes loupé, mais vous autres, vous fonctionnez encore, vous voyez pas la différence entre l'économie et puis les profits. Vous êtes des chroniqueurs des profits des compagnies. Vous ne faites pas de l'économie. On a eu des conflits ouverts, musclés, forts.
À votre initiative, Louis-Gilles Francoeur. Ah, c'est oui, pas eux qui sont venus vous chercher.
Non, c'est évident que c'est moi qui déclenchais le bal. Hein? Oh là là. Mais ça a été très tonique et ça a amené les gens en éditorial à se prononcer en tenant compte des deux dimensions. Et aujourd'hui, ce qui est extraordinaire, je suis pas encore à ma retraite, mais pas loin, c'est que je vois maintenant les collègues abordés dans presque tous les secteurs, l'écologie, oui. C'est-à-dire que les gens en éducation vont parler des cours de l'initiation à l'écologie, à l'environnement. Les gens en économie maintenant posent la question. Le collègue avec qui j'ai travaillé le dossier des gaz de schiste au Québec, Alexandre, est à l'économie. Alors, lui, il travaille le côté économique, moi, le côté plus environnemental. Si j'étais pas là, il prenait le côté environnement. S'il était pas là, je prenais le côté économie. On a intégré la couverture de façon complète. Moi, je dis toujours, l'environnement, vous savez, c'est une science holistique. Et on a compris que les gouvernements qui fonctionnent en silo, avec littéralement des œillères, c'est la vieille école. L'environnement essaie de faire éclater ce moule, puis c'est fondamental, c'est multidisciplinaire, c'est multidimensionnel, c'est la façon d'aborder globalement les problèmes. Et l'environnement, je l'ai perçu comme ça dès le début, avec évidemment un grand maître qui s'appelait Pierre Dansereau, que moi, j'ai eu la chance de connaître de très près.
Qui est décédé très récemment.
Qui est décédé tout récemment, et qui était un des premiers à dire, faut faire éclater le moule, cette science-là, on sera jamais capable d'arriver à des résultats. Pour faire évoluer l'environnement si ce n'est pas multidisciplinaire. Alors, bon, disons que j'étais dans la marmite avec le bon monsieur pour apprendre ça.
Mais ce côté multidisciplinaire, Louis-Gilles Francoeur, en France, par exemple, ça a été extrêmement difficile de le faire comprendre et ça reste un enjeu. Est-ce que vous avez le sentiment qu'ici, au Québec, c'était plus facilement accepté?
Non, parce que les ministères sont des chasses gardées. Vous avez des gens assis sur des pouvoirs. Et puis, au fond, on réalise pas à quel point les trajectoires personnelles des hauts fonctionnaires créent une espèce d'inertie dans le système. Ils ont du pouvoir, ils veulent pas lâcher, ils veulent pas s'ouvrir aux autres. Et puis, ils se disent, bon, ben les autres feront le travail éventuellement si ça leur tente de changer ça. Mais moi, je suis installé solidement dans ma chaise et puis je vois pas qui va venir enlever les boulons qui la tiennent après le plancher. Alors, cette inertie, puis c'est aussi le fait des lobbies politiques qui sont derrière ces ministères. Généralement, c'est des lobbies économiques. Alors donc, fondamentalement, vous avez là des poussées corporatistes qui font que le ministère devient un peu l'avocat du milieu industriel en question, que ce soit l'agriculture, le domaine des pâtes et papiers, etc., l'énergie. Et puis, il y a une synergie, c'est le jeu des portes tournantes qu'on connaît bien. Je te passe un cousin, tu me passes ton oncle, puis on se rend des services, etc. Alors, tout ça fait en sorte que le décloisonnement, les administrations l'ont pas structuré encore. Il y a à peu près que les gens qui travaillent sur des projets environnementaux, par exemple un projet précis d'usine. Là, on va réunir un certain nombre de personnes autour d'une table parce qu'il faut bien faire une étude d'impact qui va aborder l'ensemble du dossier. Mais quand ça arrive dans l'appareil gouvernemental, eh bien, vous retombez, une fois que l'audience est faite, entre un jeu de pouvoir d'un groupe qui pousse du côté industriel, puis l'autre, il dit, écoute, c'est une merde que vous êtes en train de nous préparer, on va pas tolérer ça comme ça. Et vous retombez dans les vieilles ornières. La machine gouvernementale, pardon, n'a pas changé sa manière de travailler. Dans le ministère de l'Environnement, vous avez des gens qui s'occupent des études d'impact. Écoutez, l'exemple le plus ridicule au Québec, c'est le fait que la loi de l'environnement dit que le ministère est responsable des écosystèmes. Bon, ça, c'est la loi de l'environnement. Article 2, les écosystèmes. Mais à côté, vous avez le ministère des Ressources naturelles et de la faune. Lui, il s'occupe des poissons, des chevreuils, des orignaux, des martres, des loups, etc. Mais ça ne fait pas partie de l'environnement, ça, il paraît. Parce qu'il y a une clientèle de chasseurs. Et on veut aborder le dossier de la fonte dans une optique économique, dans le cadre des richesses naturelles. On va développer l'hydroélectricité, on va développer les mines, on va développer les arbres, on va développer Gevrey pour l'économie. C'est d'une débilité profonde. Autrefois, moi, je me rappelle un jour, le premier ministre fait une déclaration, puis dit, on va simplifier, on a 27 ministres au Québec, faudrait ramener ça une quinzaine. Je fais une chronique le lendemain, je dis, bien, écoutez, je viens de sauver un ministère, prenez la... Il y avait tourisme, chasse et pêche. Je dis, envoyez donc les biologistes au ministère de l'Environnement. Ils sont censés s'occuper des écosystèmes. Il y a 30 biologistes sur 2000 employés. Ils savent même pas c'est quoi un écosystème. Ils savent même pas pourquoi ils travaillent. Ils ont créé le ministère de l'Environnement avec les vieux politicailleurs des affaires municipales des années Duplessis, des années 50. C'était les poseurs de tuyaux. Le régime s'appuyait sur les petits bonzes municipaux, les ingénieurs civils, etc. Puis quand les libéraux sont arrivés, puis c'était la révolution culturelle, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on fait avec ces teignes ambulantes à deux pattes? Ah, ils ont dit, tiens, on crée un ministère de l'Environnement, on les envoie là, c'est des poseurs de tuyaux. Puis à l'Environnement, il paraît qu'il faut savoir poser des tuyaux. C'était assez incroyable de voir comment ce ministère, pendant les 10 premières années, manquait de vision écologique. Il y avait un bon nombre de personnes qui étaient très militants, puis il y avait toute une frange dans le ministère de jeunes biologistes. Il y en a quelques-uns qui sont rentrés, qui sont montés très rapidement, qui sont devenus aux commandes. Mais la masse ne l'était pas, avait pas cette culture de l'écologie. Puis, au fond, un ministère, c'est fort quand vous créez une culture qui fait en sorte que vous avez une force, pas seulement politique, mais une force morale, une force organisationnelle. Et le ministère ne l'avait pas. C'était le petit Genot qui venait jouer les troubles-fêtes, puis qui disait, écoutez, moi, je vais tout vous mettre ensemble, puis à mon rythme et à mon heure. Et on dit, écoute, tu restes dans ton petit coin, on va te donner un beau coussin tranquille, si toi, tu ne bouges pas. Le ministère est resté coincé là-dessus. Vous savez, le ministère de l'Environnement au Québec, encore aujourd'hui.
Il est resté coincé comme ça? Oui. J'allais justement vous demander si votre chronique avait décoincé les choses, mais non.
Oui, ça a changé beaucoup de choses. Ça a brassé la cage à tous égards. Mais malgré tout, et même si tous les sondages disent au Québec que l'environnement est toujours dans les priorités des gens, toujours dans les deux, trois premières. Bon, si la situation économique va mal, l'économie d'abord, mais l'environnement se retrouve au deuxième ou au troisième rang. Mais savez-vous que le ministère de l'Environnement au Québec, c'est à peu près 1,2-1,3% du budget de l'État? Essayez de me dire que c'est important, l'environnement pour le gouvernement, c'est une farce sinistre. Je dis 1%. Quand vous pensez que le budget du ministère de l'Environnement, c'est à peu près 1/40 du budget du ministère de la Santé. Et Dieu sait que l'environnement, quand vous le travaillez, c'est la meilleure application du principe de précaution pour préserver ultimement la santé publique, parce que vous intoxiquerez pas la chaîne alimentaire, vous ne dévasterez pas les écosystèmes, vous allez garder une vie saine dans les milieux humains habités, vous comprenez?
Oui, mais ça serait un ministère de la prévention. Et j'imagine que, on fait du curatif.
Un vrai ministère de l'Environnement, à mon avis, c'est un ministère qui est capable de s'assurer que le système vivant dans un milieu donné continue de fonctionner par lui-même.
C'est ça que j'appelle la prévention.
Alors, si c'est ça, je serais d'accord avec votre concept. Vous savez, la commission Brundtland a défini, puis tout le monde se rappelle toujours les deux premiers paragraphes du chapitre 2, penser aux futures générations tout en satisfaisant les besoins du moment. Puis une fois qu'ils ont dit ça, qu'est-ce qu'on en a déduit? Dans le monde politique, c'est que le développement durable, c'est devenu le développement durable des profits. Moi, j'appelle ça du développement pas durable, parce qu'on perpétue exactement l'ancienne manière. On n'a pas regardé deux pages plus loin, parce que la Commission définit de façon opérationnelle ce que c'est que le développement durable. Elle dit qu'il y a un critère pour le mesurer. C'est de faire en sorte que les écosystèmes soient auto-reproduisibles. Ça veut dire clairement que si tu joues tellement dans la rivière, que tu artificialises tellement les rives, que tu es obligé pour maintenir des populations de poissons de faire des ensemencements, désolé, ça n'en est plus. Le milieu est mort. Le milieu ne vit pas par lui-même. Et au fond, c'est la seule façon de transmettre aux générations futures. Moi, c'est ma conviction profonde, puis la Commission le dit de façon explicite, ce dont nous bénéficions maintenant. Parce que si on veut leur transmettre un monde vivant en santé, il faut qu'ils soient capables de se reproduire par lui-même. C'est obligé de soutenir par des ensemencements, par toutes sortes de mesures artificielles. Ben, c'est des béquilles. C'est pas du développement durable. Ça, c'est des interventions artificielles. Alors, nous, en Amérique, moi, c'est très signifiant pour moi parce que, puis pour la plupart des écologistes au Québec, le développement durable, c'est de s'assurer que les écosystèmes sont fonctionnels. C'est un peu différent pour ce que je connais d'un pays comme la France, parce qu'il y a tellement, une telle densité de population. Tu sais, je me promenais de Paris à un moment donné à Lyon, en TGV, puis j'essayais de compter. À chaque fois que je voyais une habitation, je recommençais. Une seconde, deux secondes, trois secondes, hop, une autre maison. On recommence. Une seconde, deux secondes, trois secondes. J'ai jamais été capable de me rendre jusqu'à 30 secondes sans voir une habitation. Là, je me suis dit, il n'en reste plus d'habitat naturel ici. Ce qui reste, là, c'est tellement humanisé que qu'est-ce que c'est un écosystème ici? Là, je réalisais à quel point nous, on est chanceux. Moi, en arrière de mon chalet, à 100 km d'ici, à une heure, je veux dire, je ramasse mon chevreuil l'automne, dans le lac, je ramasse mes poissons l'été, dont on se nourrit une grosse partie de l'été. Avec mon chien, je veux dire, on va chercher des oeufs. Cet automne, on était chercher des outardes, des bécasses, des canards. C'est un écosystème qui fonctionne, ça. Ça, c'est à une heure de Montréal. Et puis, c'est parce que maintenant, j'ai mon chalet, parce qu'autrefois, écoutez, il y a 10 ans, je chassais ici, en face de Montréal, des raffineries. C'est un des meilleurs endroits que je connais pour la chasse aux canards. Sur l'île de Montréal, il y a des chevreuils, il y a des coyotes, il y a des renards. Il y a une faune qui est problématique, parce que ça crée des accidents. Sur l'autoroute, l'autre jour, je disais à ma femme, je dis, je vais te montrer, hey, c'est drôle, sur l'autoroute près de l'usine d'épuration, ils ont mis un gros panneau « Attention, traverse de chevreuil ». J'ai dit, oh là là, j'avais vu n'importe quoi sur l'île, mais pas ça. Alors, je dis, elle dit, où il est? Ben, on arrive, là, je vais te le montrer. Et là, je dis, regarde le panneau, il est là-bas. À côté, elle dit, regarde ce qu'il y a à 10 pieds à côté. Il y avait un chevreuil à côté qui regardait pas ses autos en attendant de traverser. Bon, alors, ici, on a la chance d'avoir encore des écosystèmes fonctionnels, naturels. Et les gens font passer la bataille environnementale par la défense des habitats. Parce qu'on sait que si l'habitat est préservé, ça va durer. Par exemple, dans le plan métropolitain d'aménagement et de développement qui est tombé sur la table en début de septembre, c'est au fond le plan d'aménagement de la région métropolitaine pour les 20 prochaines années. Ils avaient prévu une grosse ceinture verte. Bon, alors, disons, à 10-15 kilomètres de Montréal, là, on va essayer de préserver une espèce de grande couronne verte qui va passer par les deux rives pour que Montréal, il y ait du vert un peu autour. Il n'y en a plus tellement au centre. Là, on a pas mal dévasté l'affaire. On s'est dit, on va se reprendre un petit peu autour. Mais on voit partout dans le monde, c'est le cas à Ottawa, c'est le cas à Toronto, tu fais une belle ceinture verte, ça te fait un beau bain vert sur la carte, mais le développement recommence de l'autre bord. Et puis ta ceinture verte, elle devient complètement stérile. C'est pas un habitat. Ça devient un parc. C'est aussi artificiel que Versailles, vous comprenez, comme parc. Parce que t'as des maisons d'un côté puis t'as des maisons de l'autre. Qui va aller vivre là-dedans? Quel animal va vivre là-dedans? Il n'y a pas de connectivité avec les véritables habitats où sont les animaux. Moi, j'ai lancé dans le journal, j'ai dit, écoutez, il faudrait peut-être changer cette vision-là et faire en sorte que on utilise les corridors aquatiques parce que toutes les rivières arrivent à peu près à Montréal parce que le fleuve, que vous voulez, Montréal est dans le milieu du fleuve. Évidemment, les rivières descendent vers le fleuve. Alors, j'ai dit, profitons de l'existence des rivières pour faire des corridors protégés de chaque côté, très larges, qui vont traverser les villes, qui vont rejoindre la ceinture, qui vont continuer jusque dans les montagnes. Où est la faune? Alors, les poissons vont continuer de partir du fleuve puis se rendre en haut. Les chevreuils vont pouvoir descendre par les rives, s'installer dans la ceinture verte. La connectivité va être intégrale. C'est le problème en Amérique du Nord qu'on a identifié pour tous les parcs. On a créé des parcs autour d'espèces emblématiques. Et ce qui se produit, c'est qu'on réalise aujourd'hui que la plupart des espèces qu'on a voulu protéger en créant un parc autour, sont menacés parce que le parc est trop petit. Il n'y a pas de zone tampon autour du parc, il n'y a pas de connectivité entre ces parcs et souvent des milieux naturels. Alors, si vos animaux ne font pas partie d'une métapopulation, de la grande population dont ils font partie, s'ils sont isolés, l'espèce s'étiole et puis elle ne survit pas. Donc, c'est des mécanismes.
C'est ce qu'on appelle, nous, les corridors.
Oui, on peut appeler ça des corridors écologiques, nous aussi. On a d'autres termes, mais voilà, ça correspond parfaitement. Donc, cette connectivité par des corridors écologiques est fondamentale. Donc, là, voyez-vous, le plan va sortir demain après-midi. Et là, je sais, j'ai parlé au cadre de la communauté métropolitaine. Ils ont dit, on a intégré cette idée. Maintenant, on va créer cette connectivité avec les Laurentides puis avec les Appalaches pour que toutes les espèces puissent circuler par les corridors aquatiques. Bon. Mais voyez-vous, ici, c'est une idée qui se vend facilement parce que c'est dans la tradition. Et ça va vous surprendre, c'est à cause des chasseurs et des pêcheurs. On a une expérience directe de la nature. Vous savez, moi, j'ai entendu parler des animaux, c'est pas à la télévision, c'est pas dans les livres. C'est par mes oncles, c'est parce qu'on m'amenait à la chasse, c'est parce qu'on m'amenait à la pêche. Puis quand j'étais tout petit, puis j'écoutais les grands raconter les parties de chasse, c'était l'aventure, c'était bien mieux d'aller explorer l'Afrique ou les confins de l'Asie. On avait ça ici, on montait en forêt, puis on avait toutes les aventures qu'on voulait. Alors, cette espèce de transmission du savoir, de l'expérience directe, là, comment ça vit un loup? Qu'est-ce que ça fait un ours? Comment tu te comportes devant un ours quand tu le rencontres? J'ai tout appris ça comme ça par des gens qui en avaient une expérience directe. Moi, j'ai appris ça à mes enfants en les amenant en forêt. Viens, je vais te montrer comment on fait devant un ours. Ouais, c'est pas méchant. Enfin, il faut faire attention, mais bon. Tu sais, je leur ai montré par expérience.
Bon, mais tout de même, Louis-Gilles Francoeur, quand on vous écoute, à la fois on est complètement emporté par le souffle épique de vos propos, mais moi j'ai d'autres images qui me traversent. J'ai d'abord les images des chasseurs actuels avec leurs fusils à infrarouge, avec les moyens de chasse aujourd'hui sont tels que nous en France en tout cas, on pense qu'il y a un véritable risque pour la faune parce que c'est vraiment une chasse, je dirais, assez acharnée qui peut se faire. Une autre image que j'ai, vous nous avez décrit ces grands espaces extraordinaires qui restent encore aujourd'hui des espaces où la faune, la flore peuvent vivre, exister, se développer. Moi, j'ai les images du film que Richard Desjardins vient de sortir, où on voit les trous, ce qu'il appelle, son film s'appelle True Story, et en fait, c'est sur les mines. Et on voit ce qui reste après le passage des explorations minières, et ce sont des paysages dévastés sur des kilomètres et des kilomètres. Vous avez des rivières d'arsenic et de cyanure qui coulent pour des centaines d'années encore. Vous avez des moignons d'arbres qui ne seront plus jamais des arbres. Donc ça, c'est un paysage de dévastation que vous ne décrivez pas. Et puis j'ai aussi le souvenir de paysages encore assez préservés, effectivement, c'était dans les Balkans. Vous avez rencontré des gens à qui je disais « faites attention parce que dans vos rivières si belles, on commence à voir des carcasses de voitures, on commence à voir des choses qui peuvent demain abîmer vraiment gravement la nature ». Et les gens me répondaient « mais pas du tout, la nature elle est tellement généreuse, il y a tellement d'espace et il y a tellement de richesses qu'on n'en viendra jamais à bout ». Et d'ailleurs dans son premier film, Richard Desjardins, « L'erreur boréale », parlait de son père qui disait « la forêt est tellement immense que jamais on en viendra à bout ». Et puis, tout de suite après, on voyait une image où la forêt était coupée à blanc.
Il y a beaucoup de sujets dans ce que vous venez d'abord.
Oui, mais je me venge.
Ouais, d'accord, vous avez bien raison. Alors, je vais y aller succinctement. D'abord pour la chasse. Vous savez, la conception des chasseurs ici, qu'ils ont de la nature et des gibiers, est très différente de celle que j'ai perçue. Et j'espère ne pas trop me tromper. En Europe, en Italie, en France, etc. Peut-être différent un peu en Grande-Bretagne, mais même là. D'abord, chaque gibier ici et chaque saison de chasse est contrôlée par l'État pour qu'il y ait une régulation de la récolte en fonction de ce que permet la reproduction de chaque espèce. Et ça, c'est important parce qu'on ne laisse jamais aux organisations locales, comme en France, le soin de décider qu'est-ce qu'on fait avec le gibier. Cette régulation est étatique et mandatoire et personne ne peut y échapper. Deuxièmement, quand vous avez un permis de chasse, vous n'avez pas un permis de chasse pour faire n'importe quoi. Vous avez un permis de chasse pour une seule espèce avec des règles pour cette espèce. Si je veux aller chasser l'orignal, j'ai droit à un orignal, je dois enregistrer ma région et ça prend le permis d'orignal. Les autres permis ne valent pas à cette chasse. Si je veux faire du chevreuil, si je veux faire du petit gibier, si je veux faire de la sauvagine, chaque permis doit être pris à ces exigences. Et
mais sur un territoire aussi immense, on peut vraiment suivre ça de près et s'assurer que c'est vraiment suivi?
Oui, parce que par exemple pour les grands gibiers, l'enregistrement est obligatoire, les prélèvements sont faits, les prélèvements biologiques pour analyser l'état. La récolte devient la base des données scientifiques qui permettent de contrôler l'état des populations. S'ils voient, par exemple, qu'il y a un déclin dans les gencives du chevreuil dans telle région, ça veut dire normalement qu'il y aurait moins de nourriture. Ils vont tout de suite faire un inventaire aérien. On a l'avantage d'avoir de la neige l'hiver. On passe en avion avec des rayons ultraviolets. Là. Ils sont capables de déceler les taches de chaleur et donc de compter les chevreuils. C'est très, très précis.
On ne peut pas imaginer qu'il y aurait des braconniers.
Ben, s'il y en a des braconniers. Moi, je pense qu'on sous-estime la part des braconniers dans certaines régions. Il y a des sous-cultures régionales où il y a du braconnage intensif. Mais je sais que les biologistes assignent un facteur de braconnage différent à chaque région. Parce qu'ils ont étudié, ils ne la reconnaissent pas officiellement, mais officieusement, on s'en parle. Alors, non, mais ça fait partie de la gestion de la balle. Parce que vous avez des prélèvements biologiques par la chasse, vous avez les inventaires aériens qui permettent de confirmer quel est l'état de la population. Par exemple, un certain nombre de chasseurs dans les associations vont aussi tenir compte de toutes les observations annuelles qu'ils font. Moi, dans mon territoire de chasse, ça va très mal depuis quelque temps. J'ai vu deux cerfs cette année. Je les ai laissés passer parce que c'était des femelles. On a le droit de tuer que les mâles dans le territoire où je suis. Alors que les autres années, j'en vois à peu près une douzaine par fin de semaine. Mais c'est évident qu'il se passe quelque chose dans ce territoire. Et là, avec mes copains, on s'est dit, écoute, on a droit à 4 cerfs, mais si on en prend un, on arrête. Et finalement, on n'en a pas fait, il n'y en avait même pas possible qu'on en fasse un. De sorte que les gens sont assez disciplinés, même si une certaine portion de la population, effectivement, n'est pas respectueuse de ça. Mais je peux vous dire une chose, c'est que les techniques de chasse, par exemple, les battues, ici, on n'accepte pas ça, parce qu'on appelle ça vider la forêt. Moi, j'ai vu des chasseurs faire face à un groupe, c'était des Français, je ne devrais pas le dire, qui faisaient une battue avec 50 personnes. Moi, j'ai vu des gens qui disent, non, un chevreuil, tu chasses ça, tu le suis, tu le chasses à l'affût, c'est un combat entre une bête et un homme, il faut que tu lui laisses l'avantage du terrain. Il connaît, là, il est dans son salon, lui. S'il entend craquer, il se dit, il est à côté du cendrier, il connaît tout, là. Il connaît tous les bruits. Ici, les gens font de la chasse fine. Mais moi, j'ai vu les gens prendre la carabine et se mettre devant, ils disent, vous arrêtez ici, vous avancez pas d'un pied, on tire. Ils ont dit, on ne nettoie pas la forêt. Les animaux vont se battre. Ça, c'est des chasseurs qui disaient ça. On n'accepterait jamais qu'on fasse de l'élevage et qu'on relâche parce qu'on contamine les souches génétiques naturelles. Ces choses-là, ici, c'est impensable. Ce serait considéré comme un acte quasiment criminel par les chasseurs. Et les gens ne sortiraient pas du bois intact si on savait qu'il se fait des choses comme ça. Alors, moi, j'ai vu, par exemple, des gens venir ici faire du braconnage de bécasses, parce que c'est rare dans certains pays d'Europe, puis les gens en sortaient 17, 20, 30 par jour avec des chiens, alors que la limite légale, c'est 6. Ah ben, les gens sont partis, ils ont été chercher les agents de conservation, ils ont dit, ils sont là, on sait où ils sont, on va vous montrer le frigo. Et ils ont tout saisi, puis ça leur a coûté une fortune. Les chasseurs n'acceptent pas que les gens se comportement. Dans ma région, moi, je sais qu'on a des braconniers, mais il y en a 3 qui ont été pris l'été passé. Ils ont tout confisqué, les camions, les armes, les agents les ont saisis. Parce que des voisins ont vu passer les gens la nuit, et puis ils ont dit, on n'accepte pas ça. Les gens aiment la faune. Et ici, aimer la faune, ça n'est pas incompatible avec l'idée de récolter ce qu'elle peut nous produire. Mais ce que les gens n'acceptent pas, c'est qu'on détruise la poule. On est d'accord pour prendre les œufs, mais pas toucher à la poule. Pour que la poule soit en santé, il faut qu'elle ait un habitat naturel. Ça, c'est un peu nos prémices de base, nous, dans le domaine de la gestion faunique et de la gestion écologique.
Donc c'est là que vous allez me parler de ce qui reste après le passage de l'exploration des mines.
Oui. Mais que ce soit les mines...
L'exploitation, pardon.
Que ce soit les mines ou l'exploitation forestière, vous savez, les gens qui ont vu le plus les méfaits de ça, c'est les chasseurs. Parce qu'ils vont dans le bois, puis ils vont creux dans le bois. Les seuls qui l'avaient vu, le problème posé que Desjardins a soulevé avec l'aurore boréale, c'est ceux qui vont chasser l'orignal dans les recoins les plus lointains de la province. Et qui en parlait, les mémoires les plus virulents qui ont été faites sur la gestion des forêts quand il y a eu des audiences publiques sur la régénération naturelle et choses comme ça, c'est la Fédération québécoise de la faune qui les a fait et puis qui a embauché des spécialistes pour faire des mémoires de 3 cm d'épais avec des études à la clé pour dire on peut pas continuer à faire des coupes à blanc pareilles. Ils l'ont dit, les chasseurs l'ont dit, mais bien avant les écologistes. Le dossier de la forêt a été soulevé d'abord par les chasseurs au Québec. Puis c'est parce que les médias n'ont pas écouté, n'ont pas soulevé ça, que Richard Desjardins a pu avoir un tel succès. Les gens ont dit, mais comment c'est que les médias n'ont jamais parlé de ça? C'est au point que la Fédération professionnelle des journalistes avait, à son congrès annuel, invité Richard Desjardins et moi pour dire, comment se fait-il que le principal dossier médiatique de l'année, c'est un non-journaliste qui l'ait fait? Ben, Desjardins, il dit, pas compliqué. Il dit, je me suis inspiré des articles de Francaire, puis vous autres, vous les avez jamais repris. Vous avez jamais fouillé les dossiers. Si quelqu'un en politique sort une grosse nouvelle, tout le monde la reprend. Il dit, pourquoi vous avez jamais repris ces articles-là? Vous vous intéressez pas à l'environnement. Il y avait plein de chroniqueurs à l'environnement des années 90. Aujourd'hui, il y en a deux. Les médias ont considéré qu'après la grand-messe de Rio, au Québec, là, l'environnement, c'était fini, on avait tout réglé. On peut-tu passer à d'autres choses? Et je fais encore office d'ermite dans le désert, quelque part. Mais le débat environnemental dans la population, lui, n'a pas cessé. Mais les journaux le couvrent de façon un peu en dents de scie. Par exemple, le dossier de la forêt a eu beaucoup de retentissement, mais c'est retombé. Et vous n'avez pas entendu les grands médias se lancer dans le dossier de la forêt depuis des années. Il y a eu la réforme, puis même la réforme forestière, les enjeux de fond ont été très peu couverts par les médias. Les médias adorent les batailles de coqs entre les chefs des partis politiques. Alors là, ils vont vous faire des épites, des pages entières sur les vraies politiques, celles qui changent le monde, celles qui changent la vie des gens, celles qui changent l'état de l'environnement. Ben là, c'est un peu trivial, ces histoires. Alors, les grands bons de la colline, les penseurs, c'est un peu comme les théologies au Moyen-Âge. Là. On aimait parler du sexe des hommes. On va quand même pas parler du pain dont le monde a besoin, là, quand même. Là. C'est un peu trop terre à terre. Mais la couverture médiatique de la politique, c'est un peu ça, vous savez. Moi, je me paye rigoureux. Avec beaucoup de plaisir, la tête de mes collègues, des collègues parlementaires, en leur disant, vous êtes vraiment comme des théologiens du Moyen-Âge. Vous autres, c'est le sexe des anges qui vous intéresse. Vous êtes pris dans ces débats. Mais la vraie politique, les vraies choses de terrain, vous les regardez vraiment. Que lorsqu'il y a un scandale, lorsqu'il y a un accident, lorsqu'il y a des images. Moi, j'avais un collègue à la télévision d'État. Il se faisait, il arrivait, puis il était regardé dans le devoir, ils ont fait la une avec ça, avec un gros rapport, il faut en parler. As-tu des images là-dessus? Non, pas des images. Écoute, on évoque un concept de nouvelle gestion forestière. S'il n'y a pas d'image, il n'y a pas de nouvelles. Alors, on n'en parlait pas. Il s'arrachait les cheveux pour essayer de mettre certains dossiers sur la table. Et s'il n'y avait pas d'image, on n'en parlait pas. Puis la philosophie, c'était, l'environnement, ça fait une bonne fin de téléjournal. Comme dernière nouvelle. Des fois, si on trouve une grenouille à quatre têtes, ah, c'est intéressant, de bonne nouvelle, ça. Ça fait un petit ton joyeux pour la fin. C'était de la muse-gueule. Mais il y a encore de ça pour l'environnement. Puis, maintenant, on assiste à un nouveau problème au Québec. C'est que, vous savez, on est devant des empires de presse qui, maintenant, ont des intérêts dans toutes sortes de choses, des ressources naturelles, etc. L'environnement est devenu un irritant pour l'essentiel des grands holdings. Les milieux économiques, vous savez, dans les années 80, tout le monde était pour l'environnement et puis voulait une médaille verte. Mais quand ils ont commencé à réaliser que ça voulait dire investir, ça voulait dire réduire les profits, ça se traduisait par des coûts, on n'est plus d'accord. On voulait garder l'image, on a continué. Vous savez, on est des spécialistes en Amérique du Nord dans le marketing vert. On va, du moment qu'on va même s'habiller en vert, s'il le faut, on est prêt à faire n'importe quelle bassesse, à condition que, au moins, ça maintienne l'image de l'entreprise, au mieux que ça apporte même de nouveaux clients, parce que peut-être que ça va attirer quelques écologistes comme clients supplémentaires. Mais si vous nous demandez de changer les procédés industriels, si vous nous demandez de changer les ressources qu'on utilise, de réduire nos gaz à effet de serre, de réduire notre pollution, allez, on n'est pas des extrémistes, là. On voudrait parler à des gens plus raisonnables que vous. Ça, ça fait partie de la mentalité nord-américaine. Le milieu globalement économique a réagi fortement. Bon, vous avez des ténors de droite qui, aujourd'hui, défendent des sables bitumineux comme étant du pétrole éthique. On est rendu là, là, dans la désinformation, là, à présenter le pire pétrole qu'on puisse produire comme étant un bien éthique, supposément parce que celui-là, il vient d'un pays où on respecte le droit des femmes. Alors qu'en Arabie Saoudite, c'est pas le cas. Mais alors, oups, disons que je mettrai quelques nuances dans tout ça. Bon. Mais, fondamentalement, les milieux économiques ont voulu perpétuer, au fond, l'ancien régime en maintenant du vert dans le discours. Puis le développement durable est arrivé pile au moment où on avait besoin de ça. On veut que ça dure, les profits. Regardez comme c'est important. Il va y avoir des emplois. On veut que ça dure. On va en faire une deuxième mine, puis une troisième, puis une quatrième. Puis on ne va pas trop s'occuper des détails parce que sans ça, ça va couper des emplois. Alors, on vend cette salade à répétition avec à peu près les mêmes arguments qu'il y a 30 ans quand Maurice Duplessis vendait le fer de la Côte-Nord à une scène de la tonne. Aujourd'hui, Jean Charest pavane en Europe en disant « Venez développer le Grand Nord, prenez tout ça, là, on va vous laisser faire. » Il avait dit « On va sauver 50% du Grand Nord. Ça va être un modèle comme ça n'a jamais existé sur la planète. On part en partant, là, on commence puis on dit « C'est 50% est préservé. » Puis c'est trois fois grand comme la France, là. Faudrait le calculer. » Allez, j'en dis, mais c'est extraordinaire. Quand on regarde ce que ça donne, il protège 12%. Puis le 38% qui mène jusqu'à 50%, il dit là-dedans, on va quand même explorer puis faire de la coupe forestière. Puis s'il y a des mines, ben à ce moment-là, on prendra le territoire, mais on rajoutera un petit peu plus de protection ailleurs pour compenser. Donc, finalement, on va refaire exactement le développement qu'on fait maintenant. On va s'implanter partout où les développeurs le veulent. On respectera pas les besoins des écosystèmes, on va briser les chaînes de vie, alors que si on préservait 50%, on dirait en partant, où sont les priorités biologiques, où sont les priorités écologiques, où sont les priorités écosystémiques? Puis on dirait, maintenant, ça, c'est protégé. Il reste, ici, vous pouvez jouer, là, vous pouvez jouer, et en respectant des règles très strictes. Mais là, on fait le contraire. Dites-nous où vous voulez vous implanter. Puis les restants, là, nous autres, on dira que c'est de la protection. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Et l'arnaque extraordinaire, c'est qu'on vend ça en Europe comme étant le plan le plus poussé qui a jamais été fait en matière de développement d'une région vierge. Vous savez, le nord du Québec, là, c'est l'Amazonie nordique, une des dernières de la planète, puis c'est parmi les plus intouchées. Si vous pensez à la baie James et à la baie du Tson, il y a un ou deux quais là-dessus qui s'en vont au Manitoba, du côté du fleuve Churchill. Là. Mais c'est probablement la dernière mer intouchée de la planète. Il n'y a pas un seul plan pour préserver ça. Le Grand Nord du Québec, vous savez, on a...
Ne le dites pas trop, Louis-Gilles Francoeur, vous allez attirer encore plus l'intérêt dessus.
Ben, on pourrait développer de l'écotourisme respectueux véritablement de cet environnement. Puis il y aurait moyen d'en tirer un certain bénéfice économique au profit des populations locales qui vivent dans des conditions que moi je trouve indéfendables, pour ne pas dire exécrables, et vraiment même alarmantes. Là, quand on pense que aux besoins des Autochtones, je connais des endroits où il y a 3000 Autochtones qui vivent dans 300 maisons. La plupart des villages autochtones n'ont pas de système d'eau potable vraiment sécuritaire. C'est pas acceptable, ça. On est en 2012 quand même, là, dans quelques semaines, et puis ça existe encore comme ça. Alors, c'est sûr que ces gens-là ont besoin d'un développement, mais d'un développement qui respecte leurs coutumes, leurs traditions. C'est des gens qui exploitent la nature. Comme les chasseurs d'ici, ils ont quelques 10 000 ans d'expérience, puis jusqu'à présent, ça a fonctionné. Je me fierais pas mal plus à leurs recettes qu'à nos recettes de nos développeurs. Parce que nous, on est bien plus des apprentis sortis dans ce milieu-là. Mais on leur fait miroiter des emplois. On leur dit, vous avez 80% de chômage. Là, ça va peut-être tomber à 15-20. Ça serait déjà pas si pire. Puis, les sirènes blanches, en séduisent certains qui se laissent tenter, puis qui disent, si vous ajoutiez un petit 50 millions pour qu'on se fasse un beau gros power. Finalement, on les achète. Mais on est pas vraiment respectueux de leur tradition, n'est pas respectueux de leurs habitats. Puis on sait qu'avec l'envahissement que ça va causer, ils vont tout perdre, ils vont perdre leur jusqu'à leur culture. Parce que, vous savez, quand la horde va arriver avec les machines et tout, qu'est-ce qu'ils deviennent, eux autres, là-dedans? Ils deviennent, je veux dire, c'est la petite minorité qui va passer le balai derrière les bulldozers. Alors, qu'est-ce qu'on va leur laisser dans 25-50 ans? Moi, quand je regarde ce qu'on a fait aux Algonquins du pays de Richard Desjardins, puis tout ça, ces gens-là vivent dans des forêts qui ont été scrappées, pardonnez-moi l'expression, nous autres, on dit scrappé quand on veut dire on a tout rasé, puis on a tout détruit. C'est vrai que ça existe. Remarquez que c'est pas mauvais pour les orignaux, parce que si vous coupez tout, ça fait beaucoup de jeunes pousses et beaucoup de nourriture. Mais c'est exactement le calcul que fait le gouvernement pour essayer de vendre ça, ces méthodes de coupe, en disant, regardez, ça va faire augmenter les populations animales. En fait, ça fait augmenter certaines populations animales. Mais vous venez de déséquilibrer le système en termes d'écologie. Au début des années 70-80, les chasseurs, ils gobaient ça. Aujourd'hui, les fédérations de chasseurs, ils disent, oh, minute là, on va respecter les écosystèmes un peu plus. Et là, le ministère est obligé de dire, ben si, on touche pas, etc. Avec la réforme forestière, ils vont être obligés de faire une... Là, le principe de la gestion écosystémique a été adopté au Québec. Ce qui est nouveau et même avant-gardiste en Amérique du Nord. C'est-à-dire qu'on va regarder un parterre de coupe en se disant, quels sont les grands piliers de cet écosystème? Quels sont ses principaux ressorts? On entre dedans, comment on rentre sans changer sa nature? Et ça conditionne des choix stratégiques fort différents que le choix traditionnel de dire, ben ici, il y a une belle talle de sapin, je la prends. Vous savez, alors, oui, ça conditionne des choix nouveaux, mais les gens acceptent ça maintenant. Mais ça n'empêche pas que les industriels se servent encore dans nos ressources comme à l'époque coloniale. Colonial. C'est-à-dire que le Québec est encore un pays où une grosse partie de son économie est basée sur l'exportation de ressources de base. Heureusement, on n'est pas rendu à exporter notre eau puis de dériver les rivières pour aller satisfaire la boulimie des Américains à côté, là. Bon, on a échappé à ça jusqu'à présent, puis on s'est mis des lois pour interdire l'exportation d'eau. Ça, c'est jusqu'à temps qu'ils décident d'envahir le Québec pour se servir, là. Vous avez vu dans le film de Richard Desjardins, pour avoir le nickel, il avait même préparé un plan d'invasion pour envahir l'Ontario, le Canada. Puis ça, c'est dans les deux, trois dernières décennies, là. Alors, ce qui semble impensable, utopique, fou, allié, non. Quand les Américains cotonnent des besoins... Mais ils trouveront peut-être à qui parler. La dernière tentative d'invasion, ils se sont fait bouter dehors. Cette place en Amérique, ils se sont fait sacrer dehors. Dans une guerre, si au Québec, les Québécois, ils ont retourné chez eux. Je blague quand je dis, évidemment.
Vous êtes un étonnant mélange, Louis-Gilles Francoeur, de vigueur, d'optimisme et en même temps de lucidité féroce.
Ouais, ben faut être capable de dire les choses comme elles sont. Mais moi, je perds jamais de vue une chose. Vous savez, quand j'ai commencé à couvrir l'environnement dans les années 80, je me rappelle, j'allais dans les écoles, puis je prenais le petit Robert que j'avais quand j'étais au séminaire, que j'avais 14 ans. Puis je disais aux jeunes, trouvez-moi le mot environnement, vous donnez la définition. Bien, vous savez qu'il n'était pas dedans. Quand j'ai commencé en 1981 à faire de l'environnement, dans les groupes environnementaux qui existaient alors, le STOP, la SVP, les premiers, nos pionniers, il n'y avait plus de connaissance de ce qui se passait en problématique environnementale que dans le ministère de l'Environnement. Les gens des ministères appelaient les groupes écologiques pour leur demander, avez-vous une filière, avez-vous un dossier sur telle affaire? Là, à un moment donné, je me rappelle, le sous-ministre m'appelle, puis hey, t'as sorti un sacré bon dossier, on n'a rien de tel, tu pourrais-tu nous passer ton dossier? C'était le début, c'était comme ça. Bon, ben, évidemment, tu dis, je vais te le passer à condition que tu me promettes tel rapport. Faut bien quand même utiliser nos petits moyens. Mais bon, c'est artisanal, c'était sympathique, mais c'était pas fort comme gestion environnementale. Mais je dis aux gens, vous savez, on est parti de là. Puis regardez aujourd'hui, le plus petit groupe de citoyens qui s'est structuré contre les gaz de schiste en l'espace de 2 mois avait plus de savoir dans son ordinateur pour se battre que la bibliothèque de n'importe quel groupe écologiste après 15 ans d'existence dans les années 80. La connaissance a évolué à ce point-là. Aujourd'hui, tu prends pas la peine de dire dans ton article, quand tu parles des BPC, tu prends pas la peine de marquer à côté qu'il s'agit de biphényl polychloré. Tout le monde sait c'est quoi cette affaire-là. Quand tu parles d'habitat ou d'écosystème, c'est certain que dans les années 90, le boss me disait, Louis-Gilles, explique en deux mots qu'un écosystème, c'est le fonctionnement des ressources vivantes avec les ressources minérales, etc., pour que les gens comprennent que le concept des morceaux qui se tiennent ensemble. Bon, aujourd'hui, tu prends plus la peine de dire ça. On ne se rend pas compte à quel point on a franchi au plan populaire, là, dans la population, une frontière qualitative, un seuil, moi je dis. C'est pour ça que l'environnement est en train de devenir une mutation sociale, est en train de n'engendrer une. Ça va prendre du temps, il va y avoir des reculs. Mais c'est un mouvement irréversible. C'est comme quand la préoccupation pour l'éducation est née en l'an 1000, c'était pas fort. En 1900, c'était un peu plus fort, puis aujourd'hui, c'est encore plus. Vous avez des manifestations, il y a des manifs étudiantes, si on veut remonter les frais de scolarité. Ça, c'est devenu une préoccupation que les gens partagent assez globalement. Vous comprenez? L'environnement, c'est encore plus fort que ça. Ben, ça va vous chercher dans votre sécurité personnelle. Puis ça, les gens ont compris ça avec le temps. Ben, en 1981, quand j'ai commencé, les gens, ils voyaient pas ça. Quand le boss, le patron me disait, Louis-Gilles, qu'est-ce que tu vas écrire quand tu vas avoir fait un article sur les oiseaux, puis un article sur les écureuils, il était paniqué à l'idée qu'il allait avoir un trou dans la page. Ben, vous savez, aujourd'hui, il se pose plus la question. Il dit, Louis-Gilles, là, je te vois venir, tu me proposes 9 articles pour la journée, j'en prends pas plus que 2. Parce qu'il dit, en plus, t'as 3 collègues qui travaillent sur d'autres dossiers environnementaux. Alors, il s'est passé quelque chose. Mon optimisme, il tient à ça, même si je sais qu'on est pris avec un système économique qui ne veut pas changer, qui a doré les apparences, qui a verdi plutôt les apparences, mais qui continue de jouer encore la carte de sortir un maximum au moindre coût, en faisant fi le plus possible de la sécurité des gens, de la sécurité environnementale, des droits des personnes. C'est encore du capitalisme sauvage qui nous gère. Et moi, je trouve que s'il y a une différence fondamentale dans ce capitalisme, c'est qu'il tient encore moins compte de l'environnement et des gens qu'il y a 30 ou 40 ans, parce qu'on était devant des forces économiques plus petites. Avec les regroupements, on est devant non seulement des multinationales, mais on est devant des pouvoirs qui sont en train de pervertir jusqu'à la démocratie.
Voilà, c'était donc un entretien avec Louis-Gilles Francoeur, journaliste au Devoir à Montréal. Vous pourrez télécharger cette émission pendant une semaine sur notre site franceculture.fr. Vous y retrouverez notre revue de web hebdomadaire. N'hésitez pas non plus à nous téléphoner au 01 56 40 36 72 ou à nous écrire à terre, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220, Paris, CEDEX 16. Terre à Terre vous est proposé par Ruth Stegassi, préparation, documentation Laurence Chenepin, Anne Gouzon, mixage Amandine Grevaux, réalisation Vincent Abouchard. Bonne semaine à tous.